Pourquoi Afrique ? Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, Le Monde aujourd'hui, édition du jeudi 10 mars 2016, en direct de Washington. Idrissa Seydoudia et Michel Joseph. Tout d'abord les titres.
Des troupes terrestres américaines n'étaient pas impliquées dans le raid de mercredi à l'aube en Somalie contre des militants d'Al-Shabaab, assure le Pentagone.
Des accords au Conseil de sécurité de l'ONU sur un projet de résolution sur la multiplication des cas d'abus sexuels imputés à des casques bleus.
Trois ONG de défense des droits de l'homme exigent la libération du journaliste gambien Al-Hadji Cissé.
Nouveau débat télévisé hier soir en Floride entre les candidats démocrates à la présidence, Hillary Clinton et Bernie Sanders. Ne manquez pas la Minute Éco ainsi que les sports. Pour l'instant, le journal. Démenti du Pentagone, les troupes terrestres américaines n'ont pas pris part au raid de mercredi à l'aube visant des militants d'Al-Shabaab en Somalie. Les précisions de Jean-Roger Bion.
Les responsables de la défense américaine avaient initialement présenté le raid mené dans la ville d'Aodegle comme une opération conjointe avec l'armée somalienne. Le Pentagone précise maintenant que seuls des hélicoptères américains y ont pris part. Selon le chef de la police de la région somalienne du Bas-Chabel, Abdi Ibrahim Chamo, les forces impliquées dans le raid ont tué 15 militants et arrêté 6 autres. Des chefs d'Al-Shabaab s'étaient réunis à Oldegle pour planifier des attaques contre les troupes du gouvernement somalien et de l'Union africaine, a-t-il expliqué au service Somalie de la VOA. Mohamed Awez Aboukar, un autre responsable local, rapporte de son côté que des hélicoptères ont parachuté 60 à 70 soldats près d'Aodegle mercredi peu avant minuit. Ces troupes ont ensuite attaqué 3 ou 4 cibles dans la ville, faisant plusieurs morts parmi les militants. Le groupe Al-Shabaab a fait état pour sa part d'un mort dans ses rangs. Il affirme avoir opposé une farouche résistance qui a forcé les forces adverses à battre en retraite.
À New York, un juge fédéral a reconnu hier un ancien membre de l'armée de l'air américaine coupable d'avoir tenté d'entrer en Syrie pour se joindre au groupe État islamique et à son djihad. Tayrod Nathan Webster Pugh, 48 ans, risque une peine de 35 ans de prison.
Et c'est la première fois qu'un jury fédéral reconnaît ainsi coupable d'avoir tenté d'entrer en Syrie un suspect. Les autorités américaines poussent un nombre particulier d'alliés à aller au-delà de l'Irak et de la Syrie dans le cadre de l'effort international fait pour détruire le groupe État islamique. Face à la puissance croissante de ces djihadistes en Libye et après les attaques terroristes de novembre dernier à Paris, les officiels américains estiment qu'il faut clairement une approche plus élargie et plus globale. C'est ce qu'a dit à la Voix de l'Amérique un diplomate occidental qui a requis l'anonymat.
Des désaccords agitent le Conseil de sécurité de l'ONU sur un projet de résolution face à la multiplication des cas d'abus sexuels imputés à des casques bleus. La Russie, l'Égypte et plusieurs pays africains s'opposent à ce texte proposé par Washington, ont rapporté des diplomates cités par l'AFP. Il s'agirait en fait, selon un diplomate, d'une stratégie pour bloquer la mesure du fait qu'elle imposerait de nouvelles obligations aux pays.
Ce texte proposé par Washington prévoit de rapatrier des contingents entiers de casques bleus soupçonnés d'abus sexuels. Il s'agit ainsi de faire pression sur les pays fournisseurs de troupes auxquels il incombe d'enquêter et de sanctionner pénalement les coupables.
La résolution a été proposée vendredi dans la foulée d'un rapport du secrétaire d'État général Ban Ki-moon ayant recensé 69 cas d'abus sexuels qui auraient été commis par des casques bleus en 2015, une nette augmentation par rapport à 2014.
Sur ces 69 cas, plus de la moitié ont été enregistrés dans 2 missions de maintien de la paix de l'ONU, la MINUSCA en Centrafrique et la MONUSCO en RDC. Des soldats ou policiers de 21 pays sont mis en cause dans le rapport.
Trois organisations de défense des droits de l'homme, notamment Amnesty International, le Comité pour la protection des journalistes et Human Rights Watch, exigent la libération du journaliste gambien Al-Hadji Cissé, directeur de la radio privée Teranga FM. Il est détenu depuis juillet 2015 par les services de sécurité gambiens. Stephen Cockburn, Amnesty International, à Dakar.
Alors, ici, c'est le directeur d'une radio indépendante qui s'appelle Taranga FM. Il était détenu en juillet 2015 par les agents de renseignement. Il n'avait pas accès à sa famille, il n'avait pas accès à son avocat. Et il était inculpé pour une charge de la sédition et aussi pour d'avoir publié les fausses nouvelles. Il est en détention maintenant pendant plus de 8 mois en attendant son procès et son état de santé est en train de détériorer. Il a été hospitalisé deux fois ces derniers deux mois et nous nous inquiétons que pour sa santé, mais aussi pour les allégations de torture qui ont été faites. Nous demandons aux autorités gambiennes de le libérer et de s'assurer qu'il peut continuer à avoir accès au traitement médical.
Stephen Cockburn, d'Amnesty International à Dakar.
Nous vous le disions hier, le Maroc a accusé le secrétaire général des Nations Unies de s'être départi de sa neutralité dans le conflit du Sahara occidental pour avoir utilisé le mot « occupation » pour décrire la présence marocaine dans cette région. Les détails avec Lyndon, John Lyndon.
Ban Ki-moon s'est attiré les foudres des autorités marocaines qui ont dénoncé ses dérapages lors d'une visite en Algérie destinée à relancer les négociations entre Rabat et le Front Polisario sur le Sahara occidental. Pour le secrétaire général de l'ONU, Rabat et le Polisario n'ont fait aucun progrès réel dans les négociations devant aboutir à une solution juste et acceptable par tous, fondée sur l'autodétermination du peuple du Sahara occidental. Une phrase qui a provoqué l'ire des Marocains qui écartent toute idée d'indépendance et militent plutôt en faveur d'une large autonomie du territoire sous sa propre souveraineté. Loin d'atteindre l'objectif déclaré du secrétaire général durant sa visite de relancer les négociations politiques, l'ensemble de ces dérapages risque de les compromettre, a jugé le gouvernement marocain. L'émissaire de l'ONU pour le Sahara occidental, Christopher Ross, auquel le Maroc avait en temps retiré sa confiance en 2012, en l'accusant de partialité, a repris ses efforts diplomatiques en février 2015.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, nouveau débat hier soir en Floride entre Hillary Clinton et Bernie Sanders, les deux candidats à l'investiture du Parti démocrate pour la présidentielle américaine de novembre. Ce débat, qui a été dominé par l'immigration, a eu lieu 24 heures après la victoire surprise de M. Sanders dans la primaire du Michigan et celle prévisible de Mme Clinton dans le Mississippi. La Floride, qui a une importante population hispanique, est l'un des cinq principaux États à tenir des primaires mardi prochain.
Célèbre pour sa barbe rousse, Omar le Tchétchène a été probablement tué dans une frappe américaine. Il est l'un des chefs militaires les plus recherchés du groupe État islamique en Syrie. Eric Manirakiza.
Les États-Unis ont annoncé hier avoir probablement tué ce commandant militaire dans un bombardement sur le nord-est de la Syrie il y a quelques jours. De son vrai nom, Tarkan Tayumurasovich Batirashvili est un Tchétchène de Géorgie. Il est né en 1986 d'un père chrétien et d'une mère musulmane dans la vallée de Pankinsi, en Géorgie. Après avoir combattu contre les Russes dans l'armée géorgienne en 2008, il quitte l'armée et fait 16 mois de prison pour possession d'armes. Il rejoint ensuite la Syrie. En mai 2013, il a fait allégeance à Abu Bakr al-Baghdadi, leader du groupe État islamique. Il est nommé commandant militaire pour le nord de la Syrie. Présenté comme un chef de guerre expérimenté, sa tête est mise à prix par Washington pour 5 millions de dollars. Par le passé, Omar le Tchétchène a déjà été donné pour mort avant de réapparaître.
Merci Eric. Je dois signaler avant de passer à la minute écho et au sport que dans la seconde partie de cette émission, nous aurons la RDC et le soutien à Moïse Katumbi, l'ancien gouverneur de l'ex-province du Katanga. Nous reviendrons sur le Bénin et la préparation du second tour présidentiel. Et aussi, nous parlerons des Africains qui tentent de rejoindre ou qui ont renoncé à rejoindre le vieux continent, l'Europe, avec un reportage de Nicolas Pinault au Niger.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.
La Minute Éco, Nathalie Barge.
La Mauritanie a exporté 3,25 millions de tonnes de minerais de fer et dérivés au quatrième trimestre 2015, soit 23,5% des exportations globales, selon Financial Afrique, citant l'Office national des statistiques. Ce qui marque un bond de 62% au niveau du tonnage et de 36% en recettes par rapport au trimestre précédent. Au cours de ce trimestre, les exportations de minerais de fer ont été principalement destinées à la Chine, l'Italie et l'Allemagne. Ethiopian Airlines a réalisé un bénéfice net avant impôt estimé à 165,4 millions de dollars, soit une hausse de 12% par rapport à 2013-2014. Tirée par ses filiales Sky et Malawian Airlines, la compagnie prévoit l'achat de 20 Boeing 737. Exonérée d'impôts sur le revenu par le gouvernement, elle devra surveiller son endettement de près de 2,3 milliards de dollars. La première édition du Salon du chocolat, de la pâtisserie et de la glace s'ouvre le 26 mars prochain à Ouagadougou avec comme invité d'honneur l'entreprise ghanéenne Alpha Industry, initiatrice du produit Top Choco, rapporte l'APA. Autour du thème « Une cohésion sociale pour de meilleures activités économiques au Burkina Faso », les initiateurs souhaitent promouvoir ce secteur qui peut produire plus d'emplois pour les jeunes.
À présent, les sports avec Eric Manirakiza. Eric, en Champions League, le Benfica Lisbonne et le Paris Saint-Germain en quart de finale.
Le Benfica Lisbonne s'est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions en s'imposant sur la pelouse du Zénith Saint-Pétersbourg 2-1 hier soir lors du 8e de finale retour après avoir remporté la manche aller 1-0. Et le Paris Saint-Germain s'est imposé sur le terrain de Chelsea par 2-1 comme en 8e de finale aller avec un Zlatan plus tranchant.
JO 2016, États-Unis, Phelps muet sur son programme à Rio.
La star américaine de la natation Michael Phelps, sportif le plus titré de l'histoire olympique, a refusé de révéler les distances sur lesquelles il s'alignerait à Rio en cas de qualification pour les JO 2016. Le 100 mètres papillon, sa discipline de prédilection où il a remporté 3 titres olympiques, 2004, 2008, 2012, et dont il détient le record du monde, devrait à coup sûr figurer à son programme.
Formule 1, le Grand Prix des États-Unis confirmé pour 2016, Taylor Swift en attraction.
Le Grand Prix des États-Unis de Formule 1, programmé le 23 octobre à Austin dans le Texas, aura bien lieu, ont annoncé mercredi les organisateurs qui, après une édition 2015 boudée par les spectateurs, vont organiser la veille de la course un concert de Taylor Swift. L'édition 2015 qui a permis au Britannique Lewis Hamilton de coiffer sa 3e couronne de champion du monde avait été un fiasco en termes de fréquentation avec 224 000 spectateurs sur 3 jours, en net recul par rapport à 2014, 237 406 et surtout 2012 avec 265 000 spectateurs.
Cyclisme Paris-Nice, la 3e étape annulée en raison de la neige.
La 3e étape de Paris-Nice menant au QC Centre au Mont Bouilly, Centre-Est, a finalement été annulée mercredi en raison de la neige, a annoncé l'organisation de l'épreuve. La décision a été prise par le jury des commissaires et les organisateurs. Enfin, avec vous Idrissa, les résultats de la NBA de ce mercredi soir.
New Orleans 113, Charlotte 122. Houston 118, Philadelphia 104, Memphis 96, Boston 116, Miami 108, Milwaukee 114 et Detroit 102, Dallas 96 et puis New York Knicks 128, Phoenix 97.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudia, nos dossiers du jour. En République démocratique du Congo, sept leaders transfuges de la majorité passés à l'opposition au président Joseph Kabila en septembre se sont rangés en ordre de bataille derrière l'ancien gouverneur de l'ex-province du Katanga, Moïse Katumbi. Réunis à Lubumbashi, la plateforme insiste pour que la présidentielle ait lieu en 2016, comme le veut la Constitution. Eddy Sango a joint par téléphone l'un des sept, Christophe Lutundula.
Le gouverneur Moïse Katumbi ne s'est pas encore déclaré candidat à quelque mandat que ce soit. Pour nous, le jour où il va se déclarer candidat, il peut compter sur le G7. Il n'y a aucune raison objective qui puisse faire qu'il ne puisse pas compter sur nous. Dès lors que nous menons le même combat, que nous avons une identité de vue et une identité des valeurs et des objectifs.
Quand M. Kyungu Wakumwanza dit que M. Moïse Katumbi est le cerveau de G7, doit-on comprendre qu'il en était ou qu'il en est l'instigateur?
Il n'y a pas lieu à chercher de pour ou d'autres raisons dans cette phrase-là. Vous avez suivi le cheminement de la naissance du G7. Toutes les lettres, les trois lettres que nous avons écrites au chef de l'État. Vous savez que c'est le bureau politique de la majorité qui nous a exclus d'autorité sans aucune procédure démocratique. Et c'est rare. Ce qui est vrai, c'est que Moïse Katumbi et nous menons le même combat. Nous nous concertons régulièrement pour faire aboutir notre combat.
Mais quels sont vos rapports avec les autres forces de l'opposition? On a vu récemment Moïse Katumbi aux côtés de Vital Kamerhe, du fils de M. Tshisekedi, qui eux aussi, ne s'en cachent pas, voudraient être candidats. Quels sont vos rapports alors?
Le contact entre M. Moïse Katumbi et Vital Kamerhe et Edouin Tshisekedi, ce sont des contacts libres. Je vous ai dit que Moïse Katumbi est un indépendant. Il le dit lui-même et nous devons respecter sa volonté. Ce qu'il faut, à mon avis, c'est de ne pas confondre les cibles et les étapes. À ce stade-ci, le problème n'est pas celui de la candidature, mais le problème majeur, c'est de faire sauter les entraves au processus électoral bloqué délibérément par le président de la République et ses partisans et de faire respecter la Constitution comme la matrice, comme le socle de l'État congolais et comme le symbole de l'unité de la nation et de nouvel ordre politique.
Nous avons appris qu'après cette présentation au siège du parti de M. Gabriel Kyungu Wakumwanza, il y aurait eu des désordres. Que s'est-il passé exactement?
Nous avons vu venir des éléments de la police nationale commencer à chasser ce qui était dans le cortège du gouverneur Moïse Katumbi et qui nous suivait nous tous.
Acceptez-vous finalement d'aller au dialogue?
Il est absolument exclu de participer ou de cautionner en quoi que ce soit le dialogue convoqué par le président de la République.
C'était de Lubumbashi, Christophe Lutundula, un des sept leaders de la plateforme G7.
VOA Afrique en RDC à Lubumbashi sur 102.8 FM.
Au Bénin, après la publication des grandes tendances du premier tour du scrutin présidentiel, le débat porte sur le choix offert aux électeurs dans ce deuxième tour qui va opposer, en attendant la confirmation de la Cour constitutionnelle, Lionel Zinsou, candidat du pouvoir en place et qui incarne la continuité des actions de Yayi Boni, à Patrice Talon, candidat indépendant qui incarne la rupture. Les précisions avec Ginette Fleur Adandé, notre correspondante à Cotonou.
Depuis que la Sénat a donné les grandes tendances du scrutin du 6 mars dernier, tous les regards sont tournés vers la Cour constitutionnelle, seule habilitée à donner les résultats officiels en confirmant ou non le second tour entre Lionel Zinsou et Patrice Talon. En attendant, les langues se délirent, la guerre psychologique se fait avec rage sur les réseaux sociaux. Pour certains journalistes politiques, les tendances du premier tour démontrent que le peuple a été déçu par les deux mandats du chef de l'État Thomas Boni Yayi.
Ce qui se décide, c'est que le peuple a rejeté l'alliance républicaine. Ce qui se dessine, c'est que Talon va venir au pouvoir. Parce que même si Adjavon appelle aujourd'hui à voter Zinsou, l'électorat qu'il a loué ne le suivra pas. C'est la première fois que les gens votent pour lui. Et s'il se met dans la peau d'un leader charismatique, il va constater les dégâts.
À l'heure où nous parlons, aussi bien Zinsou que Talon sont tout près du fauteuil présidentiel. Les politiques, ce n'est que des intérêts. Et tout dépendra de qui a réussi entre les deux tours à avoir qui avec lui. À l'heure où nous parlons là, le prochain président, ce sera ou Zinsou ou Patrice Talon. Mais le tout dépend de qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils promettent.
Déjà, Blaye Biotchane est arrivé en quatrième position selon les tendances données par la Sénat, a appelé mercredi ses militants à tirer un trait sur les 10 ans de Gabeji pour parler des deux mandats de Yahi Boni. Pour l'analyste politique Espedi Ologu, à l'étape actuelle des choses, si le second tour entre Patrice Talon et Lionel Zinsou se confirmait, l'homme d'affaires a plus de chances de s'en sortir face à un Lionel Zinsou défavorisé par le pouvoir en place dont les actions ont été rejetées par le peuple le 6 mars dernier.
Les vents sont favorables à Talon. Il y a la mytho de la pugnacité de l'homme. Mais pas que ça. Jusqu'au bout, Boni Yayi l'aura aidé par la victimisation en l'occurrence. Au second tour, nombre de Béninois ne voteront pas pour Talon. Ils voteront contre Boni Yayi et Lionel Zinsou, ils voteront contre la continuité. Et puis, pour espérer faire 51% au second tour, il faut à Lionel Zinsou glaner 23% supplémentaires. Coup, il faut pour Zinsou faire œuvre d'Hercule pour oser inverser la tendance. Pour Zinsou, tout ce qui était si proche peut devenir si loin, trop loin, pour finir en une brève histoire d'un futur qui n'aura pas lieu.
La Cour constitutionnelle se prononcera certainement cette semaine pour fixer tout le monde. Mais en attendant, les grandes tendances données par la Sénat continuent de faire couler assez d'encre et de salive, surtout avec cette décision prise par le gouvernement d'enquêter sur un supposé achat de conscience qui aura eu lieu la veille et le jour du scrutin via les réseaux mobiles. De Cotonou, Ginette Fleur-Adandé pour VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. Golf FM, Cotonou, 96.5 Fraternité FM, Parakou, Bénin, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.
Alors que la crise migratoire perdure en Europe, les Africains sont toujours aussi nombreux à tenter de rejoindre le vieux continent. Nombreux passent par la Libye et le Niger, et souvent la dernière étape avec Agadez, avant de passer la frontière libyenne. L'envoyé spécial de VOA Afrique au Niger, Nicolas Pinault, a rencontré à Niamey ceux qui ont renoncé à l'Europe et tentent maintenant de rentrer chez eux. Reportage.
Dans l'enceinte de la paroisse Saint-Gabriel de Garbado, à Niamey, ils sont une dizaine à être venus recevoir de l'aide de la part de la mission catholique. Tous ont tenté le rêve européen, mais ont échoué en Libye ou au Maroc. À court d'argent et plein de désillusions, ces Africains ont décidé de rebrousser chemin. Avec ses locks et son bandana sur la tête, Henri a quitté Yaoundé en 2014. 2 ans de galère, mais il affirme ne rien regretter.
Ouais, déjà, j'ai eu soif d'aventure, j'ai voulu découvrir de nouvelles terres et pourquoi pas, j'ai tenté aussi d'aller de l'autre côté de l'Europe, comme tout Africain qui en rêve. Pour étranger, j'ai perdu des sous que j'avais plus rien et alors j'ai fait un retour en Algérie. En Algérie, j'ai séjourné un petit peu, quelques mois, et après je suis redescendu, une fois que j'ai compris la réalité.
Beaucoup ont dépensé des centaines d'euros pour tenter l'aventure. Stéphane a tout quitté à Douala, sa femme, sa fille et son petit commerce. Il garde un goût amer et les stigmates de son passage au Niger.
J'ai rencontré pas mal de difficultés, surtout avec la police nigérienne, parce que là-bas, ils ne sont pas vraiment humains, quoi. C'était entre Maradi et Agadez. Ils m'ont dépouillé et puis ils m'ont abandonné dans le désert. J'ai parcouru à pied plus de 36 km avant de rejoindre la ville.
Tous décrivent cette même violence de la part des passeurs, des différentes polices et de tous ceux qui font de l'argent sur le dos des migrants. Il y a aussi les abus nombreux, notamment les viols que subissent les femmes. Rachel était coiffeuse à Douala. Elle reste traumatisée par son agression à Oran, en Algérie.
J'ai compris que ça arrive, dans tous les pays ça arrive. La violence peut sortir en pleine journée, en rentrant et t'agresse. Le grave problème qui est là-bas, c'est que si un Algérien t'agresse, même devant 100 Algériennes, personne n'y riposte. On lui laisse, il fait ce qu'il a fait et il part. Que toute femme qui veut prendre la route soit seulement courageuse et forte.
Ces tristes récits, Laurentine Dano en a vu des centaines. Il est volontaire pour aider ces migrants à rentrer chez eux, mais refuse de les aider s'ils s'entêtent à vouloir gagner l'Europe.
Ceux qui traversent ici et qui vont au désert, qui veulent aller en Libye et qui veulent, la finalité, c'est de traverser, aller en Italie. Nous ne pouvons pas les aider parce que s'il advenait que notre appui aide quelqu'un à aller au désert et meurt, l'Église aura envoyé les gens à la mort. Or, ce n'est pas sa vocation.
Avec son t-shirt jaune et ses yeux d'enfant, George espère rentrer vite au Libéria. Il a vendu il y a 6 mois sa moto pour partir, un choix qu'il regrette.
Vous savez, ceux qui sont déjà à l'Italie envoient des photos, nous disent que c'est beau là-bas, qu'il faut les rejoindre. C'est donc par pure pression que j'ai dépensé beaucoup d'argent pour partir. En fait, cet argent, j'aurais dû mieux l'utiliser au Libéria. On est en Afrique, on a tout.
En 2015, 130 000 migrants ont réussi à gagner l'Italie en traversant la Méditerranée. Au moins 3 771 ont perdu la vie, selon l'Organisation internationale pour les migrations. Nicolas Pineau, Niamey, VOA Afrique.
VOA Afrique au Niger, à Niamey, 24 heures sur 24, sur 102.5 FM.
Le 1er mars dernier, les cosmonautes, l'astronaute Scott Kelly et le cosmonaute Mikhail Kornienko revenaient sur Terre après près d'un an à bord de la Station spatiale internationale. Leur objectif, effectuer des recherches en vue de futures missions vers Mars dans les années 2030. Mais que sait-on vraiment des voyages dans l'espace? Maëlys Hegel a joint l'astronaute français Jean-François Clairvoy qui nous explique ce que ça fait de voir la Terre depuis un hublot.
On tombe amoureux de la planète parce qu'on la trouve très belle. C'est à cause des contrastes de couleurs, c'est le fait qu'elle abrite la vie. Donc on voit du vert, du bleu, du turquoise. C'est des couleurs émises par les éclosions de phytoplancton en particulier. Et puis elle est vivante, elle force le respect quand on voit les ouragans, les volcans. Et tout ça, ça tourne très vite. On fait le tour de la Terre en 1h30. On traverse la France, par exemple, en 2 minutes. Donc on passe très rapidement des glaciers au désert, aux forêts tropicales, aux grandes chaînes de montagnes comme l'Himalaya, aux atolls turquoises de Polynésie française. Donc c'est magnifique. Les sensations sont très visuelles par le hublot. C'est vraiment un spectacle unique et magique. L'autre sensation fantastique, c'est l'absence de sensation de poids. On est en apesanteur tout le temps de la mission. Donc on n'est ni attiré vers le haut ni vers le bas. On est en chute libre. On tombe en étant toujours attiré vers la Terre, mais on tombe sans jamais rencontrer d'obstacle parce qu'on a cette grande vitesse horizontale. C'est comme si vous lanciez un objet horizontalement devant vous à très grande vitesse. S'il n'y a rien qui freine la vitesse de cet objet, eh bien à 28 000 km/h, il tombe attiré par la Terre, comme la Lune d'ailleurs, qui est beaucoup plus loin, mais qui tombe attiré par la Terre, mais indéfiniment parce qu'on a cette vitesse de satellisation. Et cette sensation de chute libre continue fait qu'on ne sent pas son poids et on arrive même à ne plus sentir qu'on a un corps. On flotte librement et c'est assez magique et ludique aussi.
Comment c'est le retour sur Terre du coup? Est-ce que c'est pas trop dur de s'adapter à la gravité terrestre?
Quand on arrive dans l'espace, ça prend un ou deux jours pour s'adapter. Il y a malheureusement un astronaute sur quatre en moyenne qui vomit, qui ressent des nausées comme le mal de mer, mais ça passe assez vite. Le retour sur Terre met plus de temps parce que l'oreille interne, qui est le sens de l'équilibre, a perdu toutes ses références pendant le vol spatial. Ça prend plus de temps à ce système vestibulaire, comme on l'appelle, de retrouver ses références de verticalité. On se sent très très lourd, on a perdu de la masse osseuse, on a perdu de la puissance musculaire malgré les exercices quotidiens faits chaque jour dans l'espace pour entretenir le corps. Donc il y a plusieurs fonctions qui sont altérées, qui sont modifiées en apesanteur, qui nécessite pas mal de temps pour être réhabitué. Mais dans tous les cas, un astronaute qui revient sur Terre, même après un vol de 1 an, comme Scott Kelly et Mikhail Kornienko, il va pouvoir se tenir debout dans les heures qui suivent l'atterrissage. Il va pouvoir marcher en gardant les yeux ouverts. Mais il pourra se sentir capable d'une vie normale seulement au bout de 2 ou 3 semaines.
C'était Jean-François Clairvoy, astronaute français. L'interview dans son intégralité, ce sera dans Carrefour Sciences et Santé samedi à 18h30. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. C'est tout pour cette édition matinale. Merci à Michel Joseph pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.